Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, le chef de la diplomatie iranienne qui crée l'agitation au sommet du G7. Mohammad Javad Zarif a passé plusieurs heures à Biarritz aujourd'hui. Il a notamment rencontré Emmanuel Macron, le président français, alors que le nucléaire iranien constitue l'un des grands dossiers de ce sommet.
Les feux de forêt en Amazonie évoqués à Biarritz, Emmanuel Macron affirme que les pays du G7 sont d'accord pour aider le plus vite possible les pays touchés.
Et puis les craintes de nouvelles tensions au Proche-Orient. Deux drones, ce sont des avions sans pilote, se sont abattus dans la banlieue de Beyrouth, au Liban, dans un territoire qui est dominé par le Hezbollah, le mouvement chiite qui accuse Israël et qui promet des ripostes.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Au sommet du G7, la journée a donc été marquée par la venue du chef de la diplomatie iranienne.
Oui, Mohammad Javad Zarif n'est resté que quelques heures à Biarritz, mais sa venue est ce soir largement commentée, car le nucléaire iranien constitue l'un des grands sujets évoqués lors du sommet. Le président français Emmanuel Macron tente de convaincre Donald Trump, le président américain, d'alléger les sanctions sur le pétrole iranien en échange d'un retour de Téhéran à ses engagements sur le nucléaire. Il y a donc eu une rencontre aujourd'hui entre Mohammad Javad Zarif et Emmanuel Macron, rencontre qualifiée de positive par la présidence française. Écoutez la réaction de la chancelière allemande Angela Merkel à cette venue du ministre iranien des Affaires étrangères ce dimanche à Biarritz.
C'est un événement parallèle qui se déroule au même endroit, mais pas une inflexion du sommet. Il faut maintenant attendre de voir si les informations qui seront fournies au ministre des Affaires étrangères iranien sur les discussions sur le dossier hier permettront ou non d'engager d'autres discussions. En tout cas, nous sommes tous d'accord sur le fait que tout effort supplémentaire vaut la peine d'être entrepris pour tenter de renouer le dialogue sur ce dossier des plus brûlants et éviter une détérioration de la situation.
Angela Merkel, la chancelière allemande ce soir à Biarritz.
Le chef de la diplomatie iranienne qui n'a pas rencontré Donald Trump, le président américain, au cœur de toutes les attentions aujourd'hui à Biarritz.
Oui, il a notamment évoqué le dossier du commerce. Deux jours après avoir annoncé de nouvelles hausses de droits de douane sur des produits chinois, et Donald Trump ne semble pas sur ce sujet prêt à l'apaisement puisque sa porte-parole a déclaré « Il regrette de ne pas avoir relevé davantage ses droits de douane ».
Donald Trump qui inquiète également Romain sur la question de l'égalité homme-femme.
Oui, c'est un sujet dont les membres du G7 ont débattu à la mi-journée ce samedi. Ils doivent d'ailleurs rendre leurs conclusions, des conclusions que le président américain pourrait ne pas signer. Écoutez sur ce point les craintes de Sophie Chassot, membre de l'ONG CARE qui est présente à Biarritz.
Pour lui, le climat, l'égalité femmes-hommes sont des sujets niches, des sujets mineurs de ce G7. Il est en désaccord avec l'agenda qui a été choisi par Emmanuel Macron sur ce G7, donc de mettre à l'honneur l'égalité femmes-hommes et le climat. Nous, évidemment, on est en totale opposition avec ce qu'a dit Donald Trump. On pense qu'au contraire, ces sujets-là sont stratégiques, qu'ils doivent être dans toutes les discussions. Pour autant, Emmanuel Macron ne doit pas se cacher derrière les mauvais élèves du G7 et doit quand même acter des priorités sur les droits des femmes et acter des engagements. Je pense notamment qu'il peut y avoir des coalitions qui se font sur certains pays si c'est un facteur bloquant pour la France. Mais en aucun cas, il ne doit reculer sur cette question-là. D'autant plus parce que le G7 l'an prochain sera présidé par les États-Unis, le G20 par l'Arabie Saoudite. Et on le sait, ce sont deux pays qui ne sont pas forcément progressistes à l'heure actuelle sur les droits des femmes. Nous, c'est une réelle inquiétude puisqu'il y a déjà eu une ministérielle sur les questions égalité femmes-hommes en mai dernier à Paris. Sur cette ministérielle-là, les États-Unis avaient également bloqué sur plusieurs sujets. Donc on espère réellement qu'un texte pourra sortir malgré cette position des États-Unis qui n'est pas en faveur de notre sujet.
Sophie Chassot, membre de l'ONG CARE, propos recueillis à Biarritz par Pierre-Olivier.
Et autre sujet évoqué au sommet du G7, les incendies en Amazonie.
Oui, les pires feux de forêt dans la région depuis plusieurs années. Emmanuel Macron affirme que les pays du G7 sont d'accord pour aider le plus vite possible les pays qui sont frappés par ces incendies. Un peu plus tôt, c'est le pape François, depuis le Vatican, qui avait exprimé son inquiétude sur le sujet. Inquiétude également des pays où se trouvent trouve l'Amazonie. C'est le cas notamment de la Colombie, qui pour le moment est épargnée, mais la Colombie dont le président a lancé ce dimanche un appel à la communauté internationale. Arim Lipold.
Pour l'instant, la Colombie n'est pas encore affectée par les incendies qui ravagent l'Amazonie brésilienne. Mais le pays regarde l'évolution des feux de très près, comme le Brésil. La Colombie souffre également de la déforestation qui est la principale cause des incendies. L'appel du président Iván Duque en faveur de la protection de l'Amazonie s'adresse à la communauté internationale, mais d'abord à tous les pays qui partagent avec le Brésil la plus grande forêt tropicale du monde. Le Pérou, le Venezuela, le Guyana, la Guyane française, le Suriname et l'Équateur, sans oublier la Bolivie, elle aussi victime d'incendies en ce moment. Le président colombien qui s'est entretenu avec son homologue brésilien souhaite la mise en place des fonds pour préserver la forêt amazonienne mais aussi pour lutter contre le trafic d'animaux. En attendant, la solidarité régionale en faveur du Brésil s'organise. L'Argentine va envoyer 200 pompiers en Amazonie et la Banque latino-américaine de développement soutiendra la lutte contre les flammes avec un $500 000
Arim Lipold.
Au Proche-Orient maintenant, la crainte d'un regain de tension.
Oui, deux drones se sont abattus dans la banlieue de Beyrouth, la capitale libanaise, dans une région qui est dominée par le Hezbollah, le mouvement chiite libanais. Le Liban dénonce une agression d'Israël et ce soir, c'est le chef du Hezbollah qui s'est exprimé, qui annonce une riposte à cette attaque. Attaque qui intervient quelques heures après des bombardements d'Israël en Syrie, bombardements qui ont notamment touché le Hezbollah. Israël entendait répondre à une attaque venue d'Iran. Je vous propose d'écouter le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, membre de l'armée israélienne.
L'aviation israélienne a frappé des cibles au sud de Damas appartenant à la force iranienne Quds et à des milices chiites. Le commandant de cette force, des gardiens de la révolution, Qassam Soleimani, avait l'intention de lancer des drones kamikazes depuis le territoire syrien pour attaquer Israël, de la même manière qu'il a attaqué des aéroports en Arabie Saoudite, au Yémen et d'autres sites au Moyen-Orient. Nous tenons l'Iran et la Syrie pour responsables de cette tentative d'attaque. Tsahal examine la situation et est en alerte pour envisager différents scénarios à la fois défensifs et offensifs. Cette tentative iranienne d'attaquer Israël est une nouvelle preuve de la menace posée par la présence iranienne en Syrie pour Israël et pour toute la région.
Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, propos recueillis par Michel Paul.
La crise à Hong Kong qui se poursuit, un policier a autorisé son arme de service, a utilisé son arme de service lors d'une manifestation.
Oui, cela s'est passé ce dimanche dans l'ancienne colonie britannique où plusieurs milliers de manifestants pro-démocratie ont une nouvelle fois défilé. C'est un signe d'escalade des tensions. Autre signe, pour la première fois, la police a utilisé des canons à eau pour repousser les manifestants. Précision à Hong Kong de l'envoyé spécial de RFI, Abla Junaidi.
La police avait prévenu, si les choses dégénèrent, elle aura recours aux canons à eau. C'est ce qu'elle a fait pour la première fois, mais en premier lieu pour débarrasser les routes des barricades installées par les manifestants, sans grand succès. Les manifestants les plus radicaux sont entrés en scène juste après la marche autorisée, en prenant position le long d'un axe partant du point d'arrivée de la marche. Ils ont commencé à prendre pour cible la police avec des pavés, des cocktails Molotov, des insultes. Également, les forces de l'ordre ont très rapidement répliqué, avant même le départ des manifestants pacifiques, en lançant des grenades lacrymogènes. À la vue des canons à eau, les manifestants se sont enfuis, créant la panique. Puis, comme à chaque fois, la police a opéré un ratissage de la zone. Plusieurs dizaines d'arrestations ont été recensées par les médias locaux. Quelques blessés légers aussi sont à déplorer, y compris du côté de la police. Un officier de police aurait par ailleurs fait usage de son arme de service, a reconnu le superintendant de la police, sans dire dans quelles circonstances. Abla Junaidi, Hong Kong, RFI.
Enfin, les sports et le football. Le Paris Saint-Germain est actuellement sur la pelouse.
Oui, les Parisiens reçoivent Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Paris qui tente de se reprendre après une défaite le week-end dernier contre Rennes. Alors pour le moment, 0-0 entre les deux équipes. On joue le début de la seconde période. Rennes, par ailleurs, occupe désormais la tête du championnat après sa victoire cet après-midi contre Strasbourg 2-0. Autre résultat un peu plus tôt dans la journée, Monaco qui a fait match nul à domicile contre Nîmes. Merci d'écouter RFI. Ainsi s'achève ce journal en français facile. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les scripts du journal en français facile sur le site savoir@rfi.fr. Merci Sylvie Berruet.
Merci à vous Romain.
Merci à Hélène Avril qui a réalisé ce soir le journal en français facile. Il est 22h10 ici à Paris.